Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout, là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 10 juin, il est 8h30, au programme de cette matinale, nous sommes en direct et en plateau avec Corinne, bonjour.
Bonjour à toutes et tous et bonne semaine.
Tu es documentaliste, assistante de communication à l'Institut Agro, ici à Florac. Agnès, bonjour.
Bonjour.
Tu es formatrice, ingénieure pédagogique, également à l'Institut Agro. Et Edwige, bonjour.
Bonjour.
Tu es chef du service accueil et sensibilisation du Parc National des Cévennes, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler de la visite d'Olivier Hamon ici à Florac et de la conférence qu'il donnera le mardi 18 juin prochain à la Genette Verte. Robustesse du vivant, on en parle avec vous dans quelques minutes. Et puis en deuxième partie d'émission, je suis parti à la rencontre de Thomas Cruz. Il travaille au CDAD, le Conseil départemental d'accès aux droits. Avec lui, on parlera entre autres de lutte contre les discriminations. Et par les temps qui courent, j'ai bien l'impression qu'il va falloir s'accrocher un peu la gueule de bois ce matin. Ça pique vraiment, vraiment beaucoup. Donc parfois, on aura peut-être des petites absences, vous nous en excuserez. Il y aura de la musique comme d'hab et on y va, on commence par l'édito. Vous êtes bien sûr Barthas, c'est parti.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperie que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Bon, je pourrais bien sûr vous parler des résultats des élections, oui, mais on vous saoule déjà bien assez comme ça sur les autres antennes, alors je vais vous parler de ce bal qui s'allume vers 20h tous les jours. Alors que les insectes volants pensent être peinards, il apparaît que c'est l'heure de se mettre à table pour les petits oiseaux. Et ce spectacle est réjouissant, regardez-les vers cette heure-là, posez-vous dehors, c'est un bal magnifique, plein d'énergie, de jeu. Je vous assure, vous allez passer un moment extraordinaire. Et puis si vous avez le temps, relevez la tête vers 21h15-30, enfin, dès que le soleil est presque couché, et là, c'est pas fini pour les insectes qui pensaient avoir échappé au bal des oiseaux, non, celui des chauves-souris commence. En observant tout ça, je me suis dit, waouh, la nature est bien faite, c'est vrai, c'est chouette. Et là, pris d'un vertige, les résultats des élections étaient tombés, et je cherchais une espèce de métaphore, genre un parti qui se fait bouffer par les oiseaux ou des chauves-souris. Et puis je me suis dit qu'au contraire du parti aux idées nauséabondes qui a gagné hier, même le plus petit des insectes était lui plus utile. Alors je me suis résigné, et je me suis dit que j'allais me contenter de ça. N'oubliez pas de vous poser comme ça le soir, on en a l'occasion ici, alors profitons-en. De la nature, de la nature, de la nature, ça fait du bien, de la bienveillance encore plus. Et ce matin, on va parler robustesse du vivant et ça va faire du bien. Yeah, have you heard the news today? People right across the world, I pledge and they well play the game. Victims of a modern world, circumstances brought us here. Armageddon's come too near. Too near now. Foresight is the only key to save our champion's destiny. The consequences are so grave. Jimmy Rockway, la traduction française, c'est quand on en aura plus appris, voilà. De retour en plateau avec Edwige du Parc National des Cévennes, Anne-Lise et Corinne pour l'Institut Agro. On va parler de la conférence qui aura lieu la semaine prochaine à la Genette Verte. Déjà, c'est une chance, commençons par le début, pour une petite ville comme Florac d'avoir deux établissements, comme le Parc National et l'Institut Agro. Vous faites quand même pas mal de choses ensemble. Alors, quel style de partenariat vous développez au-delà de la conférence de la semaine prochaine?
Déjà, le parc vient manger chez nous, donc ça c'est super parce que, en fait, cette ouverture, cette convention a permis de nous rencontrer, de faire connaissance. Et je pense que ça fait pas mal d'années qu'on essayait justement de trouver des ponts. Et je crois que la nourriture est le meilleur pont pour se rencontrer. Et puis, on organise aussi des rendez-vous de l'Institut Agro à Florac. Le mardi soir, souvent. Alors, au départ, c'était pour les étudiants. Puis, on a ouvert à tout public, population locale. On a reçu Anne Le Gilles l'an dernier, donc la présidente du parc, pour présenter l'émission du parc aux étudiants et à tout le monde. Le mois dernier, on avait Romain Ley sur une projection de débat sur le pastoralisme. Donc, là aussi, beaucoup d'étudiants, de public extérieur. Donc, on espère un peu développer. Et je sais que certains personnels de l'Institut Agro sont au conseil d'administration du parc. Donc, le partenariat existe déjà depuis un moment. énorme.
Edwige, une vraie chance pour le parc d'avoir l'Institut Agro pas très loin. Difficile de dire non. Hein.
C'est clair. Non, mais en plus, c'est une réalité. C'est une réalité vraiment quotidienne, puisque, par exemple, des collègues du pôle agri du parc ont des échanges réguliers avec les équipes de l'Institut Agro, interviennent devant les étudiants. On a pu, en éducation à l'environnement, par exemple, on travaille assez régulièrement. J'ai deux collègues qui participent au jury des soutenances des étudiants. Et puis, on a eu la grande chance d'accueillir, il y a 2 ans, je crois, une étudiante en alternance pour travailler autour de nos outils pédagogiques. Donc, on voit que c'est au-delà des événementiels comme ça, c'est vraiment du quotidien.
Et moi qui ai la chance de travailler avec vos deux structures, des gens passionnés, ça fait du bien. Bon, difficile de parler de quelque chose qu'on n'a pas encore vu, la robustesse du vivant, mais c'est bien pour nous donner l'envie d'aller à la conférence de mardi prochain. Alors commençons simplement. Qui est Olivier Amand? D'après ce que j'ai lu, c'est quand même un pont dans le domaine de la biologie.
Ben, c'est un biologiste qui fait partie de l'Institut National. Alors attendez, il faut que je trouve. De l'INRAE et de l'école de Lyon.
En fait, de l'école normale supérieure de Lyon. Oui. Voilà.
Donc c'est un biologiste et voilà, il a étudié un peu les petites bêtes, la nature, la faune, la flore, et il s'est rendu compte qu'il y avait un système de fonctionnement de cet univers qui était quand même assez différent du fonctionnement des êtres humains de notre société. Et donc voilà, que eux justement établissent leur ligne de vie, leur avancée dans le futur sur une manière de robustesse, enfin sur la robustesse et pas sur la compétition, la performance qu'on voit dans nos écoles, dans notre société actuelle où c'est toujours être performant, être compétitif, rentabilité, etc. Et que face au monde qui arrive là, avec toutes les crises qu'il peut y avoir, peut-être qu'il faudrait se dire qu'il faudrait changer de paradigme et aller peut-être plutôt sur la robustesse.
Ouais, il est très engagé, Olivier. Il dit notamment que nos performances humaines ont un coût terrible en ce qui concerne l'impact environnemental. Ça paraît aujourd'hui quelque chose de logique, mais on doit encore tout de même le dire, le répéter, parce que les choses n'avancent pas ou très peu. Quel est votre regard là-dessus ? Anne-Lise, un petit bug. On avait prévenu que ça allait piquer un peu ce matin.
Mon regard sur...
Sur justement le fait qu'on doit encore répéter le changement climatique est là et que...
Alors peut-être moi je vais là apporter plutôt un regard pédagogique, c'est-à-dire que... en tout cas avec les jeunes pour lesquels on travaille, nous, dans les lycées agricoles, je ne sais pas si on doit le répéter, ils l'ont bien intégré, mais il y a plutôt une réaction qui est une forme de fatalisme ou de découragement, c'est-à-dire que il y a beaucoup de jeunes, alors moi je parle vraiment, on travaille notamment en direction de lycéens et de, on va dire, Bac+2, de BTS, et qui a un peu un sentiment de « on ne peut rien faire, ça nous dépasse, on hérite d'une situation ». Et voilà, la question du pouvoir d'agir, elle est vraiment à travailler. Et ce qui est intéressant aussi avec les travaux d'Olivier Amand, ce qu'il propose, c'est pas une solution, mais effectivement, avec ce changement de paradigme, c'est de pouvoir redonner le sentiment qu'on est encore bien acteur dans le contexte actuel. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc... Le redire, je crois pas, mais c'est surtout que faire face à la situation. Et ça, c'est important de proposer des alternatives et de redonner aux jeunes, et peut-être pas qu'aux jeunes, le sentiment que tout n'est pas joué.
Alors, Edwige, on connaît, pour la plupart, il y en a peut-être qui ne connaissent pas encore le parc mais, ou l'émission que vous faites. Mais ici, c'est vrai que co-accueillir cette conférence s'inscrit totalement dans la lignée de toutes vos actions et de ce que vous proposez au parc.
Oui, tout à fait. On essaye depuis plusieurs années, et puis vraiment ça a été lancé au moment de nos 50 ans, en 2020, de réfléchir et d'agir de se projeter sur aujourd'hui et demain. Mmh. Et on le fait de plein de manières différentes. Soit on est aux côtés du... Parce que le territoire fourmille déjà de réflexions, d'initiatives, et on est aux côtés des projets du territoire. Je pense à ce que portent les deux... C'est un peu jargonnant, mais PETR sur notre territoire. Donc, c'est des collectivités. Hein, le PETR Cossé-Cévennes avec le projet Avenir Montagne qui se projette collectivement, où les élus, les habitants, des acteurs économiques réfléchissent à quel territoire il faut construire différemment et quel tourisme imaginer. Et sur le sud Cévennes, côté Lozère, il y a aussi ces réflexions au travers du génie dans le désert. Donc nous, on s'inscrit vraiment dans les dynamiques de ces territoires. Et puis on a pu aussi porter Nature Adapt. Je crois qu'on était venu en parler ici il y a quelques temps, où à la fois il y a des réflexions dans les équipes, mais il y a des réflexions en atelier avec des membres des commissions, et puis il y a aussi des ateliers avec les habitants. On aborde aussi d'autres façons avec des résidences artistiques. Et donc là, avec cette conférence-là, ça nous semblait vraiment s'inscrire totalement dans cette lignée-là, parce que moi, ce que je trouvais très intéressant dans... je ne l'ai pas encore écouté, enfin, juste sur quelques... sur YouTube, mais pas vu en vrai, Olivier Hamant, mais c'est que c'est pas des recettes, c'est presque voir comment travailler ensemble, ça se fait différemment. Et donc, c'est très profond, en fait. Et qu'est-ce que ça implique comme changement dans la façon d'imaginer travailler ensemble? Et du coup, c'est en ça qu'on s'est dit que c'était forcément enrichissant. Voilà.
C'est ça, si j'ai bien compris, c'est un véritable mouvement de pensée que nous proposera Olivier la semaine prochaine. Et justement, l'Institut Agro, est-ce qu'il a pris ce chemin, cette nouvelle manière de pratique pédagogique dans les formations que vous proposez?
Alors bon, on travaille quand même sur la coopération, la collaboration, l'intelligence collective depuis pas mal d'années, puisqu'avant on co-organisait les rencontres moustiques, mise en œuvre des usages sociodéthiques, des technologies d'information et de communication, et qu'on a rencontré Olivier Hamant aux rencontres co-construire en Belgique l'an dernier, qui sont sur l'intelligence collective. Et donc ça fait depuis 2011, quand même, qu'à l'Institut Agro, avec les ressources dynamiques collaboratives, on travaille sur cette dynamique-là. Et donc, j'ai oublié la question de départ.
Mais je vais compléter, si tu veux bien. En fait, on s'inscrit déjà dans, effectivement, comme le dit Corinne, dans cette dynamique-là. Mais là, on va la pousser. C'est vrai qu'on est un grand nombre de collègues à être allés en Belgique l'année dernière, à avoir assisté dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle Co-construire à la conférence d'Olivier Hamant, donc on a pu rencontrer. Et on va mettre en place d'une manière spécifique maintenant des formations autour de la robustesse, parce qu'il en a conçu une avec deux acolytes avec qui on travaille depuis des années, donc Gatien Bataille et Laurent Marceau. Qui viennent justement souvent intervenir auprès de nos étudiants ou dans le cadre de nos formations autour d'outils de coopération et non pas de collaboration, mais bien de coopération. Et là, on va pousser les choses parce que, ça, comme l'a redit Edwige, ça nous paraît extrêmement pertinent et que... à différentes échelles, c'est-à-dire que ça peut aussi bien toucher les directeurs d'exploitation de lycées agricoles que des directions, que faire réfléchir autrement, bah, par exemple, les futurs conseillers d'exploitation agricole, par exemple, dans les bacs, les BTS AXE qu'on a. Et eux, ils ont monté une formation autour de la notion de robustesse, donc qui dure 4 jours. Leur idée, c'est pas eux d'aller s'aimer partout en France, en Belgique d'ailleurs, où ils travaillent beaucoup en reproduisant cette formation, mais c'est de former aussi des formateurs qui vont pouvoir la mettre en place. Donc ça tombe bien, puisque ça rentre dans nos missions. Et l'idée, c'est de passer vraiment de ce concept, largement développé dans les ouvrages aussi d'Olivier Hamant. Hein, sa conférence, c'est qu'une traduction de toute une pensée qu'il développe dans différentes éditions. Et de passer du concept à l'opérationnel. Donc en gros, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être robuste? Comment on réfléchit au fait de faire société avec la nature, hein, puisqu'il a observé l'infiniment petit et ça fait 3,8 milliards d'années que ce système prospère. Donc il va à l'encontre effectivement de valeurs dominantes et voilà, je reviens à la jeunesse, mais le côté performance, même autour des masculinités, bah, ça se réinterroge aussi. Et donc, cette formation, elle va permettre à... peu importe si on est en formation comme des lycéens ou si on travaille dans une collectivité territoriale, à analyser ces projets au regard des concepts sous-jacents à la robustesse. Donc, amener la robustesse dans nos contextes respectifs, que ce soit une structure, un territoire, voilà, une association, une collectivité.
On a déjà les dates de ces formations ?
Oui, alors on va en mettre une première dès la rentrée, où là, il y aura majoritairement des gens de l'Institut qui vont y participer pour faire culture commune et, comme je l'ai dit, nous-mêmes ensuite prendre le relais, mais qui sera aussi ouverte. Enfin, il y a quelques places encore, enfin, ouvertes, justement, on va dire, un public extérieur. Donc ça, ce sera en septembre prochain, dès la rentrée, la semaine du 9 septembre. Et on va réfléchir dès la rentrée à une deuxième session où on va inverser les choses, où il y aura, elle sera surtout ouverte à l'extérieur. Et les quelques collègues qui ont encore envie de la suivre auront quelques places. Mmh. Voilà.
On remettra les dates, on en reparlera pourquoi pas début septembre, hein, bah, fin août. Edith, donc tu as parlé de pas mal de choses déjà et d'actions en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique que vous mettez en place. Cette conférence s'inscrit hein, dans tout ce que vous faites. Tu m'as parlé aussi des trophées de la biosphère.
Oui. Alors, ça fait, comme on est réserve de biosphère, réserve UNESCO, dans toutes les réserves, il y a une dynamique chaque année ou tous les deux ans, nous on le fait ici tous les deux ans, de trophée de la biosphère où, qu'on vient juste de lancer pour 2024, où le parc veut encourager, accompagner des projets innovants qui viseraient à renforcer le lien entre l'humain et la nature. Mmh. Du coup, bah, on est quand même vraiment là pleinement dans le sujet, mais par des actions vraiment concrètes, des expérimentations qui sont menées. Alors nous, les trophées peuvent candidater aux trophées des individus tout seuls qui ont une super idée, qui ont un projet, comme des associations, comme des collectivités, une entreprise. C'est vraiment toute forme est possible. Des formes aussi bien une activité économique qu'une activité artistique ou d'éducation. Pour peu que ce soit quelque chose de nouveau qui, justement, en fait, nous, au travers des trophées, ce qu'on veut, c'est qu'une activité qui se monte, quelque chose de très imaginatif, qui se monte dans un endroit, on puisse, nous, contribuer à la valoriser pour qu'elle soit inspirante. Inspirante pour d'autres personnes, d'autres groupes dans le territoire du parc. Mais comme on est dans le réseau des réserves de biosphère, en fait, après, les lauréats des trophées sont valorisés au niveau national. Bah, y a déjà une réunion de tous les trophées à Paris en fin d'année, mais ensuite, de réserve de biosphère en réserve de biosphère, on essaye de faire connaître les trophées, les lauréats des autres territoires. Donc voilà, c'est s'inspirer. Il y en a qui nous proposent de s'inspirer du vivant. Bah, c'est une façon de s'inspirer du vivant, en fait, de ce qui se fait près de chez nous. Et donc, juste, je termine, avec on peut bizarre. Candidater jusqu'au 20 août. Et les lauréats ont un soutien financier de 4000 euros sur leur projet. Et puis nous, après, voilà, si on peut, les dernières fois, même pas que pour les lauréats, pour tous les candidats, dès qu'on a pu mettre en lien le porteur de projet avec d'autres qu'on connaissait, qui pouvaient lui apporter un appui, on l'a fait. Voilà, c'est de la bidouille, mais qui permet de faire avancer les choses.
Mmh. Auditeurs, auditrices, hein, si vous voulez les modalités et le règlement et vous inscrire, parcnational-seven.fr, il y a un lien, je suppose, qui amène directement au trophée. Je mettrai le lien tout à l'heure sur notre site. Corinne, en préparant cette émission, tu m'as parlé des rencontres moustiques. Ça a attiré attisé ma curiosité. Mais qu'est-ce donc que ces rencontres moustiques qui avaient eu lieu?
Alors, les rencontres moustiques, j'en ai parlé juste 30 secondes tout à l'heure, c'était les rencontres mises en œuvre des usages sociaux des technologies d'information et de communication. Donc, et en fait, il y avait tout un collectif, à l'époque Supagro et maintenant Institut Agro, association outil-réseau à Montpellier, dont Laura Marceau, dont Annelise nous a parlé, des individus, etc. Et donc, on organisait ces rencontres tous les deux ans et c'était vraiment utiliser l'outil numérique, mais vraiment au service de la société, des humains, pour les mettre en lien, pour faire réseau, pour animer des réseaux. Et donc, Gatien Bataille aussi, donc de Belgique, des rencontres co-construire, tout ça, tout ce groupe-là, en fait, depuis 2011, co-travaille ensemble à distance. Et on a aussi le forum des usages coopératifs à Brest, qui cette année sera sur le thème « Un petit pas de côté ». Comme co-construire, l'an dernier, c'était sur un point de bascule. Donc, il y a toujours une thématique comme ça où secouage de cocotier, enfin, il faut un peu se secouer, un peu aller voir à côté, faire un pas de côté, justement, pour voir un peu ce qui se fait ailleurs.
C'est clair. La robustesse du vivant, donc, partenariat entre l'Institut Agro et le PNC, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévenus dans les mois à venir, des partenariats comme ça? Ou alors, est-ce que vous travaillez petit à petit et vous verrez ça l'année prochaine?
Oui, voilà. Pour l'instant, c'est au fil de l'eau. C'est une première. Donc, on verra.
Enfin, par rapport aux conférences. Après, c'est vrai, comme elle a dit, oui. Avec les étudiants, il y a toujours du partenariat. Donc, ça continue. Et voilà, j'ai l'impression que ça se développe, quoi. C'est ça qui est chouette, quoi.
Et puis, peut-être sur un projet avec des artistes, je ne sais pas, mais qui est en discussion pour l'année prochaine sur Florac et qui sera aussi autour de cette transition, de la transition et de comment on voit demain, mais là avec des artistes qui font parler, aident à penser, mais avec leur approche à eux et scène croisée, du coup c'est quelque chose de très 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 prometteur.
Annelise, avec plaisir.
Oui, c'est... bon, voilà, moi aussi, j'ai la gueule de bois par rapport à ce qui s'est passé hier. Mais effectivement, moi, là je pensais à d'autres conférences, on verra, parce que ça a été... très compliqué de faire venir Olivier Hamon. Enfin, voilà, je le souligne. Je trouve ça c'est une chance incroyable qu'il soit là, parce que c'est un homme extrêmement pris, qui réfléchit aussi à ses déplacements, qui essaye d'avoir une totale cohérence avec ce qu'il défend. Et donc, ça a été très compliqué de le faire venir. Au vu de son agenda, il y avait deux déplacements possibles sur un an et demi. Nous, il nous paraissait important de le faire venir maintenant. Il voulait privilégier la visioconférence. Bon, donc voilà, à voir, parce que c'est parfois compliqué d'avoir des personnes aussi précieuses. Mais ce qui m'avait marqué quand on s'est quitté en Belgique, il avait terminé sa conférence en invitant tous les participants à travailler avec des artistes, notamment le monde scientifique, parce que pour lui, et il va pas trop le développer, mais il m'a dit voilà, on peut se rapprocher de Thierry Boutonnet, qui est aujourd'hui un artiste plasticien, mais qui a toute une formation d'arboriste. Les artistes, nous, et je rebondis aussi sur ce qu'a dit Corinne, nous invitent à avoir ce pas de côté, à réfléchir différemment, à avoir d'autres modes de relation au monde. Et effectivement, c'est ce que dit Edwige, est très en lien aussi avec cette invitation que porte Olivier Hamon, que le monde scientifique se rapproche du monde artistique pour penser et réfléchir autrement le monde, puisque on est gagné par une totale instabilité. Et effectivement, il y a des rebonds comme ça. L'année dernière, on a monté une formation avec Samuel Gallet, qui est dans un collectif qui s'appelle Escandard, qui a travaillé avec des enseignants de toute la France sur la question d'écrire collectivement de nouveaux récits, mais écrire in situ, c'est-à-dire on écrit de là où l'on est, en s'appuyant sur des rencontres avec des habitants, et on aimerait faire vivre cette expérience à l'échelle du territoire, avec la programmation de cette compagnie ici. Et donc, effectivement, tout ça, ça se tisse.
Ça fait sens.
Ça fait sens, voilà.
Je ne sais pas, auditeurs, auditrices, si ça vous fait du bien ce matin, cette matinale, après la super moche soirée qu'on a vécue dimanche. Un été avec le parc revient encore cette année, je suppose.
Oui, tout à fait. Donc, on va pouvoir vous proposer tous les jours de la semaine, des rendez-vous tout l'été pour découvrir des coins de nature, découvrir certaines espèces, pour entendre parler, de mieux comprendre la nuit, sur plein de sujets différents, vivre des expériences.
Et pour en avoir fait pas mal, des événements comme ça, allez-y, des gens passionnants. Et Corinne, un petit mot pour aller une dernière fois inciter les auditeurs et auditrices à venir à la conférence de la semaine prochaine.
Olivier Hamain vient une fois en Lozère, donc vraiment, vraiment, c'est gratuit, c'est ouvert, sans inscription, mardi 18 juin à 18h30, venez nombreux, il y a de la place pour tout le monde. C'est totalement accessible et venez basculer un peu votre façon d'être et façon de voir.
C'est co-accueilli avec le Parc National des Cévennes, dont toi Edwige, tu es chef du service accueil et sensibilisation, et l'Institut Agro. Corinne, tu en es la documentaliste, et Anne-Lise, formatrice et ingénieure pédagogique. Merci beaucoup à toutes les trois.
Merci. Bonne journée. Nombreux.
Oui, c'est gratuit, et je mets le lien évidemment dans un instant. On part à la rencontre de Thomas Cruz qui bosse au tribunal de Mende. On écoute d'abord La haine au bois dormant, un morceau de Daran que m'a glissé un fidèle auditeur et ami de cette radio. Val, merci à toi, mon cher Val. Excellente journée à toutes les trois.
Merci.
On voulait croire à son sommeil, 50 ans de tiroir, elle se réveille, elle s'étire, se remet du noir. Miroir, suis-je encore la plus pire? Elle se maquille, remet ses bottes, dans toute la ville, cliquetis de menottes. J'ai deux pierres sur camion blindé. On joue à la guerre dans toute la cité. Elle est de retour. Relève le nez, marche au grand jour. Elle est la haine au bois dormant, et tous ses amants, la haine au bois dormant, et tous ses amants. Quand les pitbulls sont électeurs, ses choses s'abrutent. Cyclope a le sourire. Tu crèves ou tu votes, t'es blanc ou tu te tires. Elle est de retour. Relève le nez, marche au grand jour. Elle est de retour. Et tous ses amants son parcours, la haine au bois dormant.
Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors, on est ici à Mende, en face du tribunal. Tu y travailles au tribunal. Explique-nous ce que tu fais, dans quelle structure tu travailles et quelle est ta mission.
Je travaille au CDAD, c'est le Conseil départemental d'accès au droit. Et du coup, notre mission, c'est de faire de l'accès au droit dans l'idée de désengorger un peu les tribunaux. Donc on fait la passerelle, on a un taf de réorientation. On peut nous appeler tous les jours, c'est gratuit, confidentiel. Dans l'idée, en fait, peu importe qui a une question au niveau du droit, vraiment c'est hyper large, ça peut être j'ai envie de divorcer, je sais pas par où commencer, je subis des violences, mes parents divorcent, je sais pas ce qui se passe, j'ai un problème de tutelle, on vient de me mettre sur tutelle, vraiment n'importe quoi. Et nous, ou on peut répondre directement et c'est nickel, ou alors on réoriente vers les structures compétentes et on a aussi des permanences d'avocats gratuites de conseil 30 minutes sur tout le territoire. Donc ça peut être aussi une solution aux besoins. Et la deuxième mission, c'est de faire de la prévention. Du coup, je vais dans les collèges, dans les lycées, mission locale, chantier d'insertion pour parler de la justice, pour parler du sexisme, du racisme, de la discrimination, un peu tout ça.
Est-ce que justement, si on parle de jeunesse, est-ce qu'ils sont au courant ou alors est-ce qu'il y a un gros travail de ça, je dirais, à faire là-dessus? Comment ça se passe? Quelle perception ils ont de la justice, les jeunes, aujourd'hui?
Et ben là, justement, j'ai fait un gros boulot dans le cadre du concours des CDAD au national où en fait, je suis allé rencontrer des 4e, des 5e et des premières pour voir un peu quel est l'état de leur connaissance au niveau de la justice. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que pour les premières, ils sont quand même assez calés, ils ont bien les bases. Et après 5e, 4e, c'est un peu le début, donc ils connaissent les avocats, ils connaissent la police, ils voient que ça tire et que ça court partout et qu'on dit objection votre honneur. Mais il y a quand même un sacré taf, et ce qui ressort beaucoup, c'est des questionnements autour de la peine de mort. Tous les âges que j'ai vus, il y a vraiment ça, le retour de la peine de mort, la justice est laxiste. Du coup là, je suis allé les voir une première fois, on a écrit des lettres pour qu'en fait, moi j'avais préparé des questions et qu'ils puissent vraiment parler de la justice, et je les revois dans un an pour faire un bilan par rapport à ça et voir un peu est-ce que ça a changé, est-ce que ça a évolué, est-ce que les trucs qu'ils souhaitaient sont arrivés ou pas encore.
La peine de mort, ça fait peur un peu quand même, qui pense et que dire que la justice est laxiste et qu'il faudrait qu'elle revienne, c'est ça qu'ils se disent?
Ouais, c'est ça. Du coup, c'est un vrai travail qu'on fait. Là, je suis en train de construire une action pour aller dans les collèges et les lycées spécifiquement sur la peine de mort, pour discuter. Moi, maintenant, à chaque fois que je fais des interventions, en milieu scolaire, je finis par un débat mouvant, du coup, où je demande... où en fait la question c'est je suis pour le retour de la peine de mort, ils se mettent oui ou non et ils débattent entre eux, et à chaque fois il y a au moins un tiers de la classe qui est pour le retour de la peine de mort, et pour notamment les pédophiles, les assassins, les violeurs et des fois juste les dealers.
On n'est pas rendu. Alors, on se voit, nous, là, on a la chance de se voir à Mende parce que tu entames un travail sur les discriminations, qui est normalement un sujet prioritaire pour le gouvernement. Est-ce que tu peux nous dresser un tableau d'où est-ce qu'on en est? Je pense, commençons par le début, on compte combien, 20-25 discriminations recensées, c'est ça?
Ouais, il y a 25 critères de discrimination aux yeux de la loi, et il faut qu'en fait, quand on porte plainte pour discrimination ou qu'on se plaigne d'une discrimination, ce soit un de ces 25 critères. En sachant que c'est hyper large, ça part de l'âge, du sexe, du handicap, jusqu'à la domiciliation bancaire, ce genre de choses. Donc c'est vraiment hyper large.
Alors justement, est-ce qu'il y a des choses... est-ce que d'ailleurs, quand on est victime de discrimination, les gens savent où s'adresser et comment ça se passe, ou alors est-ce qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire?
Moi, de ce que j'ai vu, ça dépend vraiment de l'âge et de la personne, du milieu social. Du coup, c'est dans ce sens-là où je me suis dit, ok, on va faire un guide pour tout le monde. Donc j'ai fait un guide qui est pas énorme, qui est assez accessible, d'une dizaine de pages, que je vais faire traduire en anglais, en arabe, en espagnol, pour que ce soit hyper accessible, et un avec vraiment plein d'images pour qu'on puisse comprendre à peu près, même si on peut pas lire. Et dans l'idée, il y a les personnes à contacter au national et sur le territoire local, la définition de la discrimination, qu'est-ce qu'on encourt si on est auteur de discrimination, vers qui se tourner, comment se faire prendre en charge au niveau psychologique pour les sévices qui en suivent, un peu tout ça, quoi.
Alors on a tendance à dire que la Lozère est protégée sur pas mal de domaines. Est-ce que concernant discrimination, harcèlement ou autre, est-ce que c'est le cas, ou alors est-ce qu'il y a quand même des gros problèmes à ce niveau-là?
Il y a des problèmes. Je pense qu'on n'est pas protégé, qu'aucun département l'est, mais étant donné que la population est plus petite, en fait, en termes de stats, ça ressort moins que sur Paris. Mais ouais, nous, on est sollicité quand même assez régulièrement sur des problématiques de discrimination, harcèlement. Moi, je vais beaucoup dans les collèges et les lycées pour parler du harcèlement, et là, j'ai vu des secondes, et je trouve que ça, quand même, c'est en train de changer. Ça commence à rentrer à force de marteler sur le harcèlement, mais au niveau des discriminations, du sexisme, de la violence de couple, de l'homophobie, il y a encore bien du taf. Ouais.
On reviendra sur l'homophobie tout à l'heure, puisqu'on dira un mot sur les Pride qui aura lieu ici fin juin à Mende. T'as peut-être un devoir de réserve, t'es pas obligé de répondre à la prochaine question. Quid de vos moyens ici sur Mende, comment ça se passe? Sachant que déjà vous n'êtes que deux dans votre service, c'est ça?
Ouais, on est deux. Ma collègue, elle est juriste et du coup coordo. Elle est à temps plein et moi je suis intervenant juridique éducatif, donc je suis à temps partiel. Effectivement, ça limite un peu les moyens, mais quand même on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Effectivement, j'ai un devoir de réserve, donc je ne peux pas te sortir de chiffres ou de trucs bien concrets. Mais on va dire que moi, j'ai au moins une inter par semaine dans des collèges et lycées. Enfin, une journée d'inter, donc entre deux et trois inter. Donc c'est quand même pas mal. On voit la mission locale une fois par mois pour les jeunes. On fait des actions avec les jeunes. On voit le chantier d'insertion de Marvejol une fois tous les mois et demi. Et après, on est sollicité à droite à gauche. On fait venir des collégiens, lycéens aussi pour voir les audiences, comment ça se passe. Enfin, on est en train d'élargir vraiment le contact aux jeunes. Et moi, j'essaie de travailler un peu sur comment on fait pour atteindre les personnes qui ne sont pas jeunes, parce que c'est le plus facile. On a une convention avec l'éducation nationale, donc aller dans les EHPAD, aller dans les endroits où les personnes en situation de handicap se retrouvent, taper plus large.
Alors oui, tu disais atteindre les moins jeunes. Bah, justement, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi des fois commencer par les parents?
Alors ouais, mais c'est compliqué parce qu'en fait ils sont pas regroupés en un même lieu quoi. Donc dans ce sens-là, nous on fait des événements grand public. Là on a fait un ciné-débat il y a quelques jours sur le harcèlement scolaire où il y a le président et le procureur de la République qui sont venus parler un peu du traitement judiciaire du harcèlement. Et on va vers là, ouais. On fait au moins trois événements publics et dans l'idée c'est de pouvoir toucher les personnes qu'on peut pas toucher de manière facile en fait.
Parlons d'amour et de la Gay Pride à la fin du mois, parce que je disais tout à l'heure qu'on avait parlé d'homophobie. Évidemment, on va en parler parce que c'est un vrai gros problème. Mais parlons d'amour d'abord. La Gay Pride, aujourd'hui, cette année d'ailleurs, ça va être la troisième si je ne m'abuse, des petits changements et des beaux changements.
Ouais, du coup, nous on va parler de Pride parce que le mot Gay Pride c'est un peu l'ancien mot et nous on touche pas que les gays. Mais du coup, on parle de Pride. Là, j'en parle pas du tout au nom du CDAD mais au nom de l'association Tapage, un peu la double casquette. Et donc cette année, déjà on change de lieu, on va au Square Émile Joly, donc en plein centre, là où il y a le théâtre, sur le Foirail. Donc ça, on est vraiment content et on lance une marche qui va être plus militante que les années passées, avec vraiment dénoncer un peu le silence de l'État sur les discriminations faites aux personnes LGBT en général.
C'est ça, parce que les chiffres sont accablants. Il y a une forte augmentation d'actes homophobes en France. Est-ce que c'est le cas aussi en Lozère?
On n'a pas beaucoup de chiffres en Lozère. En tout cas, je ne les connais pas, donc je ne vais pas m'avancer. Mais effectivement, au niveau du territoire français, il y a une augmentation au niveau de l'homophobie, au niveau de la transphobie, au niveau du racisme aussi, en fait, de toutes les discriminations en général, qui va avec la montée des extrêmes sur le territoire européen, en fait.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour combattre l'homophobie, à ton avis? Quelles seraient les premières mesures à prendre là aujourd'hui?
Au niveau gouvernemental, tu veux dire? Alors là, déjà en fait, en ce moment, il y a beaucoup de manifestations pour les personnes trans, pour les droits des personnes trans, parce qu'il y a une loi qui est, il me semble qu'elle est passée à l'Assemblée nationale là, qui interdit les transitions pour les personnes mineures. Donc ça, c'est déjà assez accablant. Donc déjà, en fait, annuler cette loi, autoriser la PMA à toutes les personnes. Et après, juste en fait, renforcer au niveau de la justice les peines pour les actes homophobes, racistes, discriminants en règle générale, qui est vraiment efformé en fait. Aller dans les collèges, sensibiliser les parents, comme tu disais, sensibiliser tout le monde sur l'égalité des chances, sur l'égalité des droits, sur le fait qu'on est tous humains en fait, juste.
La Pride, d'ailleurs, merci de m'avoir repris. La Pride, c'est donc le 29 juin, c'est tout à fait ça?
C'est ça. Cette année, du coup, l'autre changement, c'est qu'on ouvre le village associatif à partir de 11h. Donc, il y aura des activités sur place. Il y aura, comme les années précédentes, des stands d'associations. Il y aura le plateau radio. Il y aura toujours des concerts le soir. On a trois gros concerts. Et la marche sera à 17h pour éviter qu'on crame comme les années précédentes.
Merci beaucoup, Thomas.
Avec plaisir.
Et d'ailleurs, la Pride, où nous aurons la chance, avec nos amis de 48FM, de faire un plateau. Le plateau, ce sera vers midi ce jour-là. Voilà, c'est la fin de cette matinée. On se retrouve mercredi. Nous serons avec Margot et Virginie, qui œuvrent sur cette antenne dans une émission qui s'appelle Palabre en forêt. Et justement, on parlera de la fête de la forêt qui a lieu ce week-end. Restez bien sur Vartas, on n'y est pas trop mal. On se quitte avec Yodelice, Talk to Me. Excellente journée, à très vite. Ciao.
Something just flicked in your eyes. There's a crack in your gaze, like those broken days. Am I seeing things? Baby, talk to me. Talk to me. Please talk, it's me. Talk to me. Seems like the sun is shining on everyone but me. Won't you talk to me? This is getting scary. Something got hold of your soul. You're like never before. Is there something more? Have I missed anything? Baby, talk to me.